Et donc dans la paracha à Béchalach, dans la troisième montée de la paracha Béchalach, le shlishi de Béchalach, Lilou Nishmat, Kolet Rana, Bat, Ferré. Ferré, c'est ça?
Ouais.
Ferré.
Ferré, Ferré, je sais pas.
Bon. Ferré de Colombe.
D'accord. Donc dans la paracha Béchalach, dans la troisième montée de la paracha Béchalach, on nous raconte comment... Comment vous avez fait? Vous avez vu ou pas ce qu'il a fait?
Oui, il a cassé la coupe.
Il a coupé en deux.
Amen.
Donc, dans la paracha Béchalach, on nous raconte comment Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, il ne les a pas fait passer par le chemin standard pour aller en Eretz Israël. Ça veut dire en contournant la mer Méditerranée. Parce que vous savez, quand on voit sur la carte, on voit que pour partir de l'Égypte à Israël, il faut suivre la côte, exactement. Et c'est un chemin de 11 jours. En 11 jours, on fait le chemin. 11 jours de marche, c'est pas très loin. D'accord? Pour arriver au moins jusqu'à la frontière de l'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu faire ça parce que, justement, il voulait que les Bnei Israël prennent le temps de réaliser ce qui s'est passé.
Il y a des tunnels.
Alors, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas fait parce qu'il y avait deux problèmes. Premier problème qu'il y a, c'est que tout d'abord, il veut que les Bnei Israël réalisent ce qui s'est passé. Donc 11 jours, c'est pas suffisant. En 11 jours, ils se retrouvent arrivés en Eretz Israël. Deuxième problème, c'est que bien sûr, il doit leur donner la Torah au mont Sinaï. Ça, c'est un deuxième problème. Mais troisième problème, qui est encore plus fort, c'est que, ça c'est le problème d'ailleurs qui est écrit explicitement dans la Torah, c'est que les Bnei Israël, au moindre problème, ils risquent de vouloir faire demi-tour. Vous savez comment on est? Dès qu'on se lance dans un projet, et surtout, si c'est pas nous qui avons voulu aller dans ce projet, c'est quelqu'un, votre femme par exemple, qui vous a dit, viens, on va là-bas. Dès qu'il y a le premier obstacle, tu dis, ah oui, ça y est, on revient, c'est à cause de toi. D'accord? C'est à cause de toi, à cause de ta mère, à cause de qui tu veux. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a prévu ça. C'est qu'il a dit, on va pas prendre le chemin le plus court. On va faire un petit peu de détours. Donc, ils ont fait des détours, comme ça, les Bnei Israël, ils ont le temps de réfléchir, de comprendre ce qui se passe. Bon. Juste après, dans la paracha, après, on va arriver au passage, mais d'abord, je vous raconte ce qui se passe, parce que sinon, on comprendra pas. Juste après dans la paracha, on nous raconte qu'à un certain moment, à peu près 4 jours après que les Bnei Israël ont pris la route, Akadosh Baruch Hu leur demande de rebrousser chemin, de faire demi-tour. Ils vont faire demi-tour. Pourquoi ils font demi-tour? Rashi explique, parce que Paro, bien sûr, avait envoyé avec eux des espions, d'accord? Des espions, les sentinelles, enfin des espions, des gens qui devaient les guetter. Et donc, on sait très bien que lorsqu'on a un peuple qui est en train d'avancer et qui revient, ça veut dire que c'est perdu. Donc si c'est perdu, ça veut dire que c'est le meilleur moment pour l'attaquer. D'accord? Voilà ce qui s'est passé au début de la paracha. Bon. Donc là, où on en est dans la paracha maintenant, donc je vous ai dit Pasukutet, Perekudalet, Pasukudalet, Pasukutet. Donc là, on est déjà 11 jours. Enfin non, pas 11 jours, on est 7 jours après la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Paro a déjà eu le temps de rattraper les Bnei Israël, puisque... Trois jours plus tôt, il avait reçu l'information qu'il s'était perdu. Lui, en 3 jours, il a eu le temps de rattraper un chemin qu'eux, ils ont fait, parce que bon, c'est un peuple qui se déplace. Eux, ils étaient avec des chars, enfants, etc., voilà. Donc, en trois jours, il a réussi à les rattraper. Donc, 7 jours plus tard, on se trouve devant Yamsouf, devant la mer des gens. Voilà. Devant Yamsouf. Bon. Donc, on est là-bas, et, à la fin de la deuxième montée, à la fin du chenil, on nous raconte la catastrophe, enfin la pagaille qu'il y avait à ce moment-là chez l'homme Israël, les gens ne savaient plus quoi penser. Il y en avait qui se sont mis à prier, il y en a qui se sont mis à pleurer, il y en a qui se sont mis à dire à vouloir se battre, il y en a qui se sont dit on va se jeter à la mer, enfin, on avait fait un cours une fois sur ça, Bezrat Hashem en refera un autre cours, on va se rendre. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait une pagaille monstre. Et là, à ce moment-là, il y a Kadosh Baruch qui intervient, et qui dit à Moshe Rabbeinu, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu cries? Arrête de crier, avancez. D'accord? Avancez. Bon. Donc ils vont commencer à avancer. Et là on a le pasuk Utet. On va dire ensemble pasuk Utet et pasuk Raf, et on va s'arrêter sur le rashi du pasuk Raf. Vaïssa Malach HaElokim. Alors regardez, il y a beaucoup de détails dans ce pasuk. On va essayer de les expliquer. Mais d'abord je vais lire les détails. Vaïssa Malach HaElokim a voyagé l'ange de Dieu à Oler Lifne Machane Israël qui marchait devant le camp d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait un ange qui les accompagnait, qui marchait devant le camp d'Israël. Et cet ange-là, Vaïeler Mechareem, il est parti derrière Israël. Ça commence à compliquer là. Il y avait un ange qui était devant, il est passé derrière. Et après, Vaïssa Amud et Anan Ipeneem, Vayamod Nachareem. Et la nuée de gloire qui les accompagnait, elle aussi, Vayamod Machareem, elle est partie derrière eux. Donc c'est quoi devant, c'est quoi derrière? Et on parle ici d'un ange, et on parle ici d'un ange, et on parle ici d'une nuée de gloire. Et pas seulement ça. Vous avez remarqué que comment on a appelé l'ange? On n'a pas appelé l'ange tout court. D'habitude on dit Malach Hashem, on a dit Malach Elohim. Rachid nous fait remarquer que pourquoi on dit Malach Elohim, chaque fois qu'on dit le mot Elohim dans la Torah, ça veut dire qu'il y a un attribut de digne, de rigueur. Et nous raconte Rachid, ce qui est écrit dans le Midrash, qu'à ce moment-là, il y avait un jugement. À ce moment-là, il y avait un jugement du Ham Israël dans le ciel. On était en train, dans les cieux, on était en train de poser la question, est-ce que le Ham Israël était tellement méritant plus que les Égyptiens? C'est vrai? Je dis, mais attends, pourquoi tu veux, on va sauver les Juifs et les Égyptiens, on va les sauver? On va les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les Juifs? Et donc, c'est pour ça qu'on nous l'appelle ici Malach HaElokim. D'accord. Donc, apparemment, on avait un ange qui était, il y avait un ange qui était devant et il est parti derrière. Il y avait une nuée de gloire qui était également mi-pénéem devant eux et qui est partie derrière eux.
Il y avait la mer, ils sont arrivés à la mer.
D'accord. On va voir. On va lire Pasukra, après on va lire Rashi. Vayavo, il est venu. Qui il est venu? Ben, il est venu, ça veut dire on parle de cette nuée de gloire ou de cet ange. Ben Machane Mitzrayim ou Ben Machane Israël. Il est venu entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Ben oui, parce que puisqu'on nous dit que Israël est devant la mer et que l'Égypte est derrière et que la nuée et l'ange est venu derrière, ça veut dire que l'ange va se positionner entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Vayei Anan Vachosher et fut le nuage et l'obscurité. C'est-à-dire qu'apparemment ce nuage a amené une obscurité. Comment on va expliquer? Mais Vayaer et Alayla. Mais d'un autre côté, ce même nuage, il éclairait la nuit. Donc de quel côté? Côté Israël. Ça veut dire que ce nuage, il avait un effet spécial. Côté égyptien, c'était obscurité alors qu'il faisait jour. Il faisait jour à ce moment-là. Côté égyptien, il amenait l'obscurité. Et côté israélien, côté juif, non seulement qu'il amenait la lumière, mais il amenait les spots.
C'est quoi ce état-là alors?
Attendez. La nuit, parce que la nuit qu'il y avait de l'autre côté. Alors justement, on va expliquer dans la
chine.
Bonne question. Vélo karav zelze kolalaila. Et donc, vélo karav zelze kolalaila. Donc, les deux camps n'ont pas pu s'approcher l'un à l'autre toute la nuit. Voilà. Et c'est le matin, qu'on va voir le miracle de la traversée de la mer Rouge. Alors, on va s'arrêter sur Rashi. Et vous allez voir qu'on a un Rashi qui va, a priori compliquer encore plus les choses. D'accord? Donc déjà, j'aimerais qu'on fasse le résumé des éléments qu'on a eu ici. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il y avait...
Excuse-moi, mais c'était le jour.
C'était la nuit.
Ah non, là c'est la nuit, là.
T'as dit qu'il faisait jour.
Non, là, c'est la nuit.
C'est à cause du nuage.
D'accord.
Bonne question. Au début,
t'as raison, des jours.
Départ, il faisait jour.
C'est des questions que Rachid va poser, ça. C'est une très bonne question.
Pourquoi ça éclaire s'il fait jour?
Très bien. Alors, Rachid va parler de ça. D'accord. Alors. En tout cas, les éléments qu'on a ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous a raconté que il y avait apparemment des nuées de gloire qui étaient devant, qui sont passées derrière. Il y avait de la même manière un ange qui nous accompagnait devant, qui est passé derrière. Et quoi qu'il en soit, apparemment, ce qu'on a compris, c'est que le but de cette nuée de gloire, maintenant, c'était de s'interposer entre Israël et les Égyptiens. D'accord. Ok. On va lire Rashi ensemble. Et vous allez voir que Rashi va nous amener un exemple du Midrash. Et cet exemple, a priori, va compliquer les choses. Vous avez Rashi, le Rashi Chav, Vayavo ben Machane Mitzrayim. Vous avez Rashi numéro Chav.
C'est bien petit.
Alors, Rashi nous dit la chose suivante. Il dit, Mashal, l'aimé à l'air, va derrière. Il va donner un exemple. Après, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que Rashi veut nous amener par cet exemple. Il nous amène l'exemple, l'aimé à l'air, va derrière, une personne qui marchait sur la route. Ubno, mais à l'air, les fanav, et son fils marche devant lui. Pourquoi son fils marche devant lui? Hein? Quand vous marchez avec votre enfant, vous marchez comment avec lui?
Bah, je le surveille.
Il est devant. Toujours devant. Toujours il court devant. Normalement, quand vous marchez avec votre enfant, bah, c'est côte à côte.
Il est à côté.
Il est à côté, tu lui tiens la main.
Des fois, il reste
bon, d'accord. Disons.
Le rechercher.
Il n'est pas derrière.
D'accord. Bon, pour l'instant, je l'ai rachis. Hein. Machal, il m'a l'air pas derrière. On amène l'exemple d'une personne qui marchait dans la route. Ou Bouno m'a l'air les fanaves. Et son fils marche devant lui. Bon, disons. Baou l'istim, l'ishboto. Sont venus des brigands, des voleurs, l'ishboto, pour le kidnapper. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le père? Donc ils sont venus de devant, les brigands. Netalom il est fanav, il a pris son fils de devant lui. Ou Netano le acharav, il l'a mis derrière. pour protéger des brigands. Zerma, s'il y a un problème, je suis là. D'accord? D'accord, il s'interpose. Mais après le problème, nous dit Rashi, Baouz et Evi, Meacharav, sont venus les loups de derrière. Alors, l'état de l'Efanav. Alors, il a remis devant lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Baouz estime l'Efanav, vous avez vu, Meacharav. Mais après, c'est les brigands qui viennent devant et les loups qui viennent derrière. Alors, Natno Alzro, il a pris son fils sur ses bras, Venil Kham Bahem, et il s'est battu avec eux. Avec qui? Avec eux? Ben avec les deux, avec les brigands et avec le loup. Car, de la même manière, nous dit Rashi, Ve'anochi tirgalti le Ephraim, kachem al zeraotav, moi j'ai habitué Ephraim, comme ça le verset nous dit, pour le prendre sur ses bras, sur mes bras. Bon, c'est très joli, Rashi a une très belle image, mais on aimerait comprendre de quoi il veut parler. Il nous a parlé des brigands, des loups, devant, derrière, sur les bras.
C'est un machal.
C'est un machal, mais c'est un machal à quoi? C'est une image. L'image de quoi? Comment on retrouve ça dans l'histoire?
Ouais, ça existe. Ça.
D'accord. Mais attendez, mais il faut expliquer chaque détail. Parce que dans un machal, chaque détail est précis. C'est-à-dire qu'on va devoir retrouver des brigands, des loups, un bras de Dieu, et le fait que le fils y marche devant ou derrière. On va devoir retrouver tout ça chez Israël. Vous êtes prêts?
Et qui marche, et qui les a mis sur ses épaules.
On va voir. D'accord. Est-ce qu'on est prêts? Ça c'est Rashi, j'ai fait que lire Rashi là.
Donc le père c'est Hachem.
Rashi, le problème c'est que Rashi nous donne pas l'image. Le père c'est Hachem, le fils c'est Israël, ça on le sait. Mais il y a des détails là. Il était devant, après il a mis derrière, d'abord il y avait des loups. Non, d'abord on a dit il y avait des brigands, après il y avait les loups, après il y avait les brigands et les loups. Alors il l'a mis dans ses bras, devant, derrière. De quoi il veut parler Rashi?
En plus tu veux dire par ta question...
Après il y avait Ephraïm, on n'a pas compris comment il a atterri ici.
Je veux dire par ta question que la réponse qu'on va trouver n'est pas apparente. Il y a un message dans le
machin. Bien sûr.
Oui, qui n'est pas celui qu'on a.
Ah, une parabole, c'est un exemple. Ça veut dire qu'après, tu te débrouilles.
Oui, mais il a fait un message codé.
Bien sûr qu'il y a un message.
Bon, alors.
D'accord. Bon. Alors, on va essayer d'expliquer, avant d'expliquer ce que Rashi veut dire, on va d'abord expliquer qu'est-ce qui dérangeait Rashi. Parce que Rashi ne vient pas juste nous raconter des exemples. Il n'est pas là pour nous raconter des histoires pour nous endormir. D'accord. Rashi, s'il nous raconte un exemple, c'est qu'il a quelque chose qui le dérange dans le verset. Et là, en l'occurrence, c'est pas une chose qui le dérange dans le verset, c'est trois questions qu'il a sur le verset. Au moins.
Qui l'interpelle.
Ouais. D'accord? Il a trois questions qui le dérangent. La première question qui le dérange, c'est que Rashi, il vient de lire dans le verset 19, qu'il y avait un ange qui marchait, qui était devant et qui est venu derrière. Et il y avait une nuée de gloire qui était devant et qui est venue derrière. Donc ça veut dire qu'apparemment, combien de protections on a ici? Deux protections.
Pourquoi ils sont les deux derrière?
Donc, Rashi.
Le malheur, il n'était pas là pour protéger.
Très bien. Ah, ben là, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que, il y avait un ange qui était devant, il passait derrière, il y avait une nuée de gloire qui était devant, elle est passée derrière. Donc, première question que Rashi vient répondre aux questions qu'un enfant est censé poser. Première question qu'on est censé poser, pourquoi deux protections? On est d'accord?
Et plus à l'avant.
Une suffit.
Et les plus à l'avant.
D'accord?
On a perdu la protection à l'avant.
Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Deuxième question. D'accord? Deuxième question que Rashi se pose. Très simple. On a appris au début de la paracha. Vous lirez dans Rashi, même c'est écrit clairement dans la paracha explicitement au début de la paracha, que pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est ce que je vous explique au début, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous avait passé par un chemin tordu alors qu'il aurait pu nous amener en Eretz Yisrael en 11 jours, je vous ai dit que la troisième raison, la raison qui est écrite explicitement dans le verset, c'est de peur que les Bnei Israël vont voir une guerre, vont voir un obstacle, et ils vont rebrousser chemin. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, je veux pas que vous voyez une guerre tout de suite, je veux vous faire demi-tour. Bah, si pour Akadosh Baruch Hu, il avait peur qu'il voit une guerre et qu'il rebrouille chemin, bah, là, il y a une guerre, là. Là, c'est fait, déjà. Donc, Rashi a une question, une deuxième question, il dit, mais je comprends pas, tu viens de dire dans le début du verset, dans le début de la paracha Béchalar, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait un détour, il nous a pas fait passer directement par la côte? Parce que de peur qu'on voit une guerre et qu'on a peur et qu'on revient.
Oui, mais c'est une guerre perdue.
Attendez. Et qu'on a une guerre et qu'on revient. C'est ce qui est en train de se passer.
Mais là, il y a une guerre. Va revenir parce que...
Ça veut dire que le scénario que Akadosh Baruch Hu attendait, il s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? On a rien gagné à prendre un détour.
Mais là, le chemin est plus long, le chemin du retour, alors que sur le...
Vous avez raison, mais je relis dans les mots. C'est le premier passage de la paracha. Qui Amar Elohim? Pourquoi Dieu a dit, il nous a pas fait passer par la côte? Qui Amar Elohim? Car Dieu a dit, Pen innachem ha'am, de peur que le peuple va regretter, bir otam milchama, en voyant une guerre, veshavu mitraima, et ils vont décider de se rendre.
Le problème, c'est pas la guerre. Le problème, c'est le chemin qui est court.
Très bien. Pourquoi on n'a pas pris le chemin qui est court? Parce
qu'on va dire le chemin il est court, on va revenir.
Voilà, mais là, combien
de... Là, le chemin il est plus long.
Mais bah, du tout, on est 7 jours plus tard, là.
Oui, mais...
Ah bah oui,
bon, mais y avait des...
Donc on n'a rien gagné.
Non, mais c'est de peur qu'ils ne retournent.
Ben là, ils vont retourner.
Ah non, pas du tout.
Pourquoi ils vont pas retourner?
Ils sont plus dans la possibilité de retourner.
Et pourquoi là maintenant, qu'est-ce que ça change? C'est la mer qui a changé quelque chose?
Non, c'est les Égyptiens qui veulent les tuer.
Mais là, et pourquoi là-bas, les Égyptiens, ils n'ont pas voulu les tuer? Birota Milchama, c'est quoi la guerre?
Ils veulent pas les tuer.
Ils avaient peur qu'ils voient une guerre pour les autres peuples.
Ah, bon point, d'accord.
Alors que les Égyptiens ont perdu.
Très bien, c'est un point que Rachid a mis, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que ce que Rachid veut comprendre ici, c'est comment ça se fait que tu me dis qu'on avait peur d'une guerre, mais dans les faits, la guerre arrive devant nous. Donc il y a un problème, il y a des éléments qui nous manquent ici. D'accord. Mais surtout, la troisième question qui dérange Rachid, c'est quoi ce petit jeu qu'on est en train de voir ici entre Akadosh Baruch Hu et Israël? D'abord, il nous protège de devant, après il nous protège de derrière, après il nous protège de devant et de derrière. C'est quoi ce petit jeu? Alors Rachid va répondre à cette question, écoutez bien comment Rachid va répondre à cette question. Rachid va répondre à cette question en nous amenant le Machal. Je répète le Machal. D'accord. Qu'est-ce qu'a dit Rachid dans le Machal? Il a dit, il y avait un fils. D'accord. Il y avait un fils qui marchait avec son père. Et comment Rachid a dit, le fils il marchait devant son père. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas normal, le fils il marche pas devant son père. Le fils il marche à côté de son père. Quand le fils il marche devant son père, Guy, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils fait ce qu'il veut. Et que le fils... Attendez. Ça veut dire que le fils, il va avancer tout seul. Et que le rôle du père, c'est uniquement de s'assurer que tout va bien. Très bien. Alors, explique le rabbi qu'il faut qu'on... Regardons, on va reprendre chaque détail du machal. Et on va l'expliquer dans l'histoire d'Israël. D'accord? On va comprendre le petit jeu qui est en train de se passer. Les bénis d'Israël sortent d'Égypte. Ils marchent devant. Ça veut dire quoi qu'ils marchent devant? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu leur dit, bon, écoutez, maintenant, moi, je vous laisse faire. Avancez. Moi, je vous regarde de loin. D'accord? Donc, ils les laissent faire, ils avancent. Ils avancent. Bnoma alech lefanav. Il dit, vous, moi, ce que je sais, c'est que vous devez aller vers le mont Sinaï. Donc, je vous laisse avancer. Allez-y, avancez. Bnoma alech lefanav. Allez, cours, fonce. Très bien. Parce que les bénis Israël, quelque part, n'ont pas besoin à ce moment-là de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils veulent aller au mont Sinaï. Donc, Dieu leur dit, bon, je vous suis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le premier obstacle qui est venu? Il y a eu des brigands. D'accord? C'est qui les brigands ici? Non? C'est qui les brigands? Non? 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 C'est qui les brigands? Les brigands, c'est le désert. Pourquoi? Il s'est en train de se perdre dans le désert. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'Arachid a dit tout à l'heure? Les brigands sont venus pourquoi? Sont venus pour le capturer. D'accord? Pour le capturer. C'est le désert! C'est le désert, vous savez, quand vous êtes dans un endroit, vous tournez en rond, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, vous ne savez pas où vous allez. Donc vous êtes capturé. Prisonnier. Vous êtes prisonnier dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez. D'accord?
Il n'est pas devant, il est tout autour.
Très bien. Donc c'est le désert qui est en train de les capturer. D'accord? Attendez.
Les brigands, ils étaient devant.
Attendez, j'y arrive. Donc les brigands, c'est qui? Les brigands, c'est le désert. D'accord? Les brigands, c'est le désert. Là, pour l'instant, à Kadosh Baruch Hu, il marche, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, messieurs, son sort va jusqu'à la fin. Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Akadosh Baruch Hu, il est derrière, ça veut dire, bon, je vous regarde de loin. D'accord? Mais après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les bénis Israël, il y a des brigands qui sont en train d'arriver. C'est qui les brigands, on a dit? C'est le désert qui est en train de les rendre. Allez, Michel, c'est le désert qui est en train de les rendre. Qu'est-ce qui est en train de les rendre? Tu as dit le mot tout à l'heure.
Prisonniers.
Donc ils sont prisonniers. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il voit ça? D'accord? Il prend son fils et il le met derrière. Ah oui, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il lui dit, bon, maintenant que tu es bloqué dans le désert, tu es prisonnier dans le désert, tu vas me suivre. GPS. Et ça, ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé déjà le deuxième jour après qu'il soit sorti d'Égypte.
Mais il lui a dit à Moshé.
Deux secondes.
Il va croire que vous êtes perdu.
J'arrive. D'accord? Donc, c'est quoi la première étape? Les bénis d'Israël avancent. Ils sortent d'Égypte tout contents, tout fiers. On fonce. Pour l'instant, il n'y a pas de nuée de gloire, il n'y a rien du tout. Ils avancent. Mais Dieu les suit de derrière, entre guillemets. Après. Ils sont en train d'être pris par le désert parce qu'ils connaissent pas le désert. On a affaire à des esclaves ici. Hein. On a affaire à des esclaves, enfin des anciens esclaves. Ils connaissent pas le désert. Ils se plantent complètement. Il y a pas de repère. Il y a aucun repère dans le désert. Donc ils sont trompés. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? C'est bon. Allez monsieur, amène-le. Vas-y, comme ça on finit.
Ça ne te dérange pas.
Il aurait pu prendre un autre exemple, Rachid.
Attendez, on va y arriver.
Les loups, alors. Après, non, parce qu'il y a quelque chose.
Il y a quelque chose dedans, c'est ce que j'ai envie d'expliquer, mais il faut me laisser l'expliquer. Voilà, c'est bon?
Voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent pas revenir.
Il y a une ligne droite, faut pas perdre la ligne. Si on perd la ligne, on va pas comprendre.
C'est pour ça qu'ils peuvent pas revenir par ce chemin, même s'il y a la guerre, parce qu'ils savent pas se diriger.
On va expliquer, d'accord? Donc je répète. Étape numéro 1, les bénis Israël sortent d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils marchent à Kadosh Baruch. Les bénis Israël sont devant, Kadosh Baruch les suit par derrière. Ils avancent tout contents, tout fiers. On avance. D'accord? Deuxième étape, c'est quoi? Les bénis Israël sont prisonniers par le désert. Il y a les voleurs. C'est qui les voleurs? C'est le désert. Donc quand Akadosh Baruch Hu voit que les Bnei Israël sont perdus, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre devant eux. Comme le GPS. Ça, c'est l'étape numéro 2. Le jour numéro 2, c'est le deuxième jour. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, bon, vous allez suivre la nuée de gloire. Et une nuée de gloire, vous allez la suivre. Et partout, dès que vous voyez partout elle avance, elle tournait, elle changeait de direction. Très bien. Ça, c'est la deuxième étape. C'est le fils. C'est donc maintenant, le fils est devant ou derrière? Il est derrière. D'accord, puisque le père s'est mis devant, c'est le GPS qui s'est mis devant. D'accord, très bien. Là, pour l'instant, c'est la nuée de gloire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël, à un certain moment, comme M. Bismuth a dit, à un certain moment, comme j'ai dit tout à l'heure, au bout du quatrième jour, enfin du troisième ou quatrième jour, Akadosh Baruch Hu les fait revenir en arrière. Donc à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de GPS. Puisqu'ils savent déjà d'où ils viennent. Ils font demi-tour. Quand on fait demi-tour, à partir de quand on a besoin d'un GPS? C'est quand on doit trouver une nouvelle route. Maintenant, ils font demi-tour. Donc s'ils font demi-tour, on n'a plus besoin. D'accord? Donc ils sont plus pris en captivité. Ils sont plus prisonniers du désert. D'accord? Donc là, ils reviennent. Donc là, à ce moment-là, on a un moment dans lequel ils ne sont plus accompagnés par la nuée de gloire. Parce qu'on n'a plus besoin de la nuée de gloire. Plus besoin de GPS, ils font demi-tour.
Ils ont été mal guidés.
D'accord?
Ils sont perdus.
D'accord. Ouais. Mais à ce moment-là,
ils
Dieu leur...
Perdus.
Non, ils sont pas perdus.
Ils suivent les...
Non,
les,
c'est exprès. Dieu leur a dit, maintenant vous allez faire demi-tour. C'était pour embrouiller les Égyptiens, pour leur faire croire qu'on est perdus. Mais pour l'instant, on n'a plus besoin de la nuée de gloire, puisqu'on sait où on va. On sait qu'on fait demi-tour. Faire demi-tour, c'est facile. D'accord? Donc ils font demi-tour. À ce moment-là, a priori, il n'y a aucun obstacle. Puisque la route, on la connaît. Il n'y a pas de brigands. La route, on la connaît. Mais là, c'est quoi le problème? Donc, est-ce que maintenant on a un obstacle de la route? Non. Donc les brigands sont partis. D'accord? Est-ce qu'on a l'obstacle? Est-ce qu'on a un autre obstacle? A priori, non. Il y a un deuxième obstacle qui va venir. C'est qui le deuxième obstacle? C'est les loups. C'est quoi le loup? Le loup ne vient pas pour nous prendre en captivité. Le loup, il vient pour nous manger, pour nous tuer. C'est qui le loup ici? C'est évident. C'est Pharaon. C'est Pharaon qui vient pour nous rattraper. D'accord? Par derrière. Il vient par derrière pour nous rattraper.
Qui est notre bon. Devant maintenant.
Oui. D'accord? Donc il vient pour nous prendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Maintenant, la nuée de gloire qui servait à vous diriger, je vais l'amener derrière, puisque maintenant il n'y a plus besoin de vous diriger. Il n'y a plus besoin de vous diriger, maintenant vous connaissez la route. Donc cette nuée de gloire, au lieu de la mettre devant vous, elle va être derrière vous pour vous protéger des Égyptiens. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé après? Baou, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi après? Sont venus les brigands devant et les loups derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, écoutez bien ce qu'on explique ici. À un certain moment, les Bnei Israël étaient perdus. D'accord? Et ça, c'est le pire. À un certain moment, les Bnei Israël, non seulement qu'ils avaient les Égyptiens par derrière qui étaient en train de vouloir les dévorer, donc ça c'est le loup, ça c'est par derrière, mais à part ça, ils commençaient à être perdus dans la route. Pourquoi ils étaient perdus dans la route? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je dis qu'il y avait une pagaille monstre à ce moment-là chez les Amisraël. Ils ne savaient pas où aller. Il y en avait qui allaient devant, d'autres qui allaient derrière. Imaginez-vous la pagaille que c'est. Il y en avait qui voulaient se rendre, d'autres qui voulaient aller vers la mer, d'autres qui voulaient aller à droite, d'autres qui voulaient à gauche. Donc il y a une pagaille monstre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une pagaille monstre? On perd la direction. On perd les repères. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On avait les loups qui étaient par derrière et les brigands qui étaient par devant. Donc je répète. D'accord? Il y a une précision. D'accord? Les brigands, c'est toujours les Égyptiens. Si?
Les loups sont les Égyptiens. Les brigands,
c'est le désert.
Ah non, il y a un nouveau brigand.
Donc oui, mais encore une fois, pourquoi je suis perdu par le désert? Pourquoi on est perdu par le désert? Parce que là maintenant on est perdu par le fait qu'on ne sait pas où aller. Il y a la mer devant nous, où tu veux aller? Jusqu'à présent, je sais faire demi-tour, j'ai pas besoin de GPS parce que je sais où aller. Mais là, mon GPS, j'ai pas besoin de GPS, je me débrouille tout seul. Mais là, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois la mer, alors tu veux que j'aille où maintenant? Donc je suis perdu. Donc je sais pas où aller. Donc j'ai les brigands devant moi, ça veut dire je suis prisonnier par la mer. Et par, en général, par le, enfin, on a perdu nos repères, prisonniers par la mer, et j'ai un loup qui veut me manger par derrière, qui est les Égyptiens. Est-ce que vous avez bien compris comment on a ici les trois étapes? Parce que c'est la précision de Rashi, ça. D'accord? Je vais le répéter encore une fois, mais cette fois-ci, je vais le faire dans les mots de Rashi. Vous allez voir comment chaque mot est précis dans les mots de Rashi. On va le relire ensemble dans les mots de Rashi. On va y arriver? Attends, on va y arriver. On va y arriver. Alors, je reprends d'abord le machin. D'abord, on voit les problèmes, après on voit la solution. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je reprends dans les mots. Il dit comme ça. Machal, Rashi nous donne un exemple. Les Mehaler Baderech. Une personne qui marche dans la route. Ubno Lefanav. Ubno Mehaler Lefanav. Et Rashi, regardez bien les mots de Rashi. Vous avez vu que Rashi répète deux fois le mot Mehaler. Il y a quelqu'un qui marche dans la route et son fils marche devant lui. Pourquoi Rashi répète le mot devant, deux fois le mot marcher? Parce qu'il veut nous montrer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'en vérité son fils est en train de marcher indépendamment. Il marche tout seul, il est autonome. L'imehaler va derrière, moi je marche sur la route, donc c'est Dieu. Ubno et son fils, Mehaler le Fanav, lui aussi il marche tout seul, il marche tout seul. Mehaler, c'est pour ça que Rashi répète deux fois le mot Mehaler. Dis moi je marche et mon fils il marche aussi tout seul. Moi je le suis seulement de derrière, pour m'assurer que tout va bien. Donc là à ce moment-là, il ne me voit même pas. Il n'y a pas de nuée, il n'y a rien à ce moment-là. Il n'y a pas d'ange, il n'y a rien du tout. Il ne me voit même pas. Mais moi je le suis par derrière. On est d'accord ? Allez, on va reprendre les mots. Vous allez voir les mots, on dit que les mots, ça rend intelligent. C'est Milot Markimot. Les mots, ça me permet de comprendre. Non, à tout le monde. C'est pour ça que je vous demande de suivre dans les mots.
On m'a montré.
Voilà. Non, 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 non. Okay. Non, mais parce que c'est important de lire dans les mots. Regardez, où c'est que c'est ? Voilà. Otiot Markimot. Essayez de suivre dans les mots. Les mots, ça nous permet de bien comprendre. Machal, je recommence. Machal. Un exemple, on donne l'exemple, l'imehaler baderer, une personne qui marche sur la route. Ça veut dire que Dieu est en train de marcher. D'accord ? Ubno et son fils. Bon, Ubno et son fils, mehaler lefanav. Son fils marche devant lui. Pourquoi on répète deux fois le mot marcher ? Puisque son fils est en train de marcher, on a dit, de manière autonome, isolée. Ça veut dire que le fils ne sait même pas que le père est en train de le suivre. Tu entends Guy ? Le fils ne sait même pas que son père est en train de le suivre. Il ne sait pas. Il avance. Baou listim lishboto sont venus des brigands pour le kidnapper, pour le rendre prisonnier. C'est qui les brigands ? C'est le désert. C'est parce que ils étaient perdus dans le désert, ils ne savaient pas où aller. C'est à partir du deuxième jour. Ils disent, bon allez, ça y est, maintenant ils sont en train de se remettre leurs émotions, on est sortis, maintenant on fait quoi ? On va où ? Vas-y, tu pourrais aller dans toutes les directions, tu verras la même chose. Du sable partout. Hein, tu vas où ? D'accord ? Il n'y a pas de repère. Donc ils étaient capturés, ils étaient prisonniers par le désert. Donc il y a les brigands qui sont venus pour les capturer de devant. Ils ne savent pas où aller. Alors, Netalo Milefanav, Dieu a pris son fils de devant lui, il a dit, bon, ça y est, je gère. Il l'a pris de devant lui. Ou Netano Leacharav, il l'a mis derrière. Pourquoi derrière ? Ça veut dire quoi ? En d'autres termes, ça veut dire, bon, maintenant, suis-moi. Donc, GPS. Très bien.
C'est gênant, d'accord. Parce que le désert, il est tout autour. Il n'est pas que devant.
Il n'est même pas tout autour.
Il est tout autour, bien sûr.
Ah ouais, alors.
Donc il n'y a pas de repère, c'est un problème.
Derrière aussi, il y a le désert.
Mais oui, mais il lui dit, quand il le met derrière, ça veut dire, il lui dit, maintenant, tu vas me suivre.
Donc je vais me suivre. Alors pourquoi les loups en plus ?
Non, il n'y a pas encore les loups là. Là pour l'instant c'est que les. Donc là maintenant, est-ce qu'il est prisonnier ? Non, parce qu'il sait où il va. On est prisonnier seulement quand on ne sait plus où on va. Quand je sais où je vais, quand je suis chez moi à la maison et que je ferme la porte de ma maison, est-ce que je suis prisonnier chez moi ? Non, puisque je sais que si je veux, je peux ouvrir la porte. Donc je ne suis pas prisonnier. Parce que je sais que quand je veux, mon repère est là, je sors de la maison. Mais quand je ne trouve pas la porte, là je me sens prisonnier. Ou quand la porte est fermée, là je suis prisonnier. Donc là les Bnei Israël ne trouvaient pas la porte de sortie. Donc ils sont prisonniers ? Qu'est-ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, il leur montre la porte. Il dit voilà, je me mets devant vous. Je continue. Baou Zevi, Meacharav. D'accord. Ensuite sont venus les loups, Meacharav de derrière. C'est qui les loups qui sont venus de derrière ? C'est qui les loups ? C'est les Égyptiens, parce que les Égyptiens ne veulent pas simplement les rendre prisonniers. Ils veulent les manger, ils veulent les tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Netano Lefanav. Alors dans ce cas-là, il se met Lefanav. Non, attendez, j'ai perdu quelque chose. Netano Lefanav, il met son fils devant lui. Ça veut dire qu'il se met derrière. Pourquoi il se met derrière ? Ah, et le GPS ? Qu'est-ce qu'on fait du GPS ? Je vous ai répondu à la question. Étant donné qu'on nous a raconté quelques versets avant, que les Bnei Israël ont déjà fait demi-tour, donc est-ce qu'on a besoin de GPS ? Non, on n'a plus besoin de GPS. Très bien. Donc on avance. On a fait demi-tour, on avance. La seule protection qu'on a besoin maintenant, c'est une protection par derrière pour nous protéger de les Égyptiens. Très bien. Maintenant, on avance, on arrive devant quoi ? On arrive devant la mer. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Baou listim lefanav, ou zevim, meacharav. Le problème quand on arrive devant la mer, c'est quoi ? C'est qu'on a les loups par derrière. C'est qui les loups ? Les loups, c'est les Égyptiens. Et on a la prison qui est par devant, les brigands, donc ça veut dire la prison qui est par devant. C'est qui la prison ? C'est la mer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis enfermé chez moi à la maison et que je ne trouve pas la porte, je ne sais pas comment sortir, je suis prisonnier, donc je suis prisonnier par la mer. Et j'ai les loups qui sont par derrière, qui veulent me dévorer, qui sont les Égyptiens. Donc là, on a deux obstacles. Jusqu'à présent, on avait à chaque fois un seul obstacle. Suivez.
Comment en faisant demi-tour ils vont trouver la mer ? Puisqu'il n'y avait pas la mer.
Parce que faire demi-tour c'est facile. Ils ont fait demi-tour.
Comment ils vont trouver la mer ?
Mais parce que les Égyptiens ils sont arrangés pour les amener devant la mer.
Non, ta chaîne, il a dit remonte vers Baal-Séphon.
D'accord, bien sûr. Mais Baal-Séphon c'est pas la mer encore.
C'est pas la mer, mais en face.
Très bien. Mais Dieu n'aurait pas dit aller jusqu'à la mer. Il leur a dit faites demi-tour. Mais faites demi-tour, les Égyptiens ils sont arrangés pour les amener devant la mer. Donc qu'est-ce qui se passe ? On est prisonniers par. Jusqu'à présent, on était soit prisonniers du désert. Soit on a les Égyptiens qui veulent nous dévorer. Il n'y a jamais eu les deux en même temps. Parce que au début, les Égyptiens ne nous poursuivaient pas, mais on ne connaissait pas la route. Deuxième étape, les Égyptiens nous poursuivent, mais on connaît la route, puisqu'on vient de faire demi-tour. Et troisième étape, c'est quoi ? On a les deux problèmes. On a la mer devant, donc on est prisonnier. Et on a les Égyptiens par derrière. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là ? Netano alzro'o venilcham ba'em. Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, maintenant je te prends dans mes bras, et c'est moi qui vais me battre avec eux. Ça, c'est une phrase extraordinaire qu'on a vue à la fin du Sheni, à la fin de la deuxième montée. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Hashem ilachem lachem. D'accord, enfin, c'est Moshe qui a dit, mais il dit, Dieu va se battre pour vous. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, jusqu'à présent, je vous laissais faire. Une fois, je me mettais devant, une fois, je me mettais derrière. Alors, une fois, je me mettais devant et derrière. Là, vous êtes perdu. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais vous prendre dans les bras, et c'est moi qui vais me battre. Où on a vu ça? Dans la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on a vu dans la mer Rouge? En parallèle, en même temps, la même mer qui était miraculeuse pour les Bnei Israël, qui était en train de... Les Bnei Israël, ils voyaient le dévoilement divin. Cette même mer, par derrière, était en train de noyer les Égyptiens. Ça veut dire que Dieu, il dit, bon, maintenant je te prends dans mes bras, et c'est moi qui gère. Il n'y a ni devant, ni derrière, ni tu marches, c'est moi qui gère. La question qu'on se pose quand on voit tout ça, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce manège, ce cirque? Bah oui, d'accord. D'abord, Akadosh Baruch Hu, on a dit, il nous protège par devant le GPS. Après, on n'a plus besoin de GPS, alors il nous protège par derrière, après il nous protège par derrière des loups. Après, on a les loups, plus la mer, donc il nous protège. Je crois, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ce petit jeu? Pourquoi directement il nous prend pas dans le bras? Ça, c'est la question que Rachid s'est posée. Pourquoi, c'est quoi ce jeu? D'abord, tu me protèges devant, après derrière, après les deux, après dans les bras. À quoi on joue? Là vient la réponse de Rachid. Regardez la réponse de Rachid. Car, de la même manière, c'est avec Ephraim, il va nous répondre à la question. Ve'anochi tirgalti l'Ephraim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ve'anochi tirgalti. C'est quoi tirgalti? Dans le mot tirgalti, on a le mot hergel. Hergel, ça veut dire quoi en hébreu? Une habitude. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de nous habituer. Quand on habitue quelqu'un, c'est pas direct, je dis bon, je te prends dans les bras. Progressivement. On dit bon, je te montre ce que ça veut dire t'aider de derrière. Bon, t'as compris? Je te montre ce que ça veut dire t'aider de devant. T'as compris? Bon, t'as compris que t'es perdu maintenant? Maintenant, je te prends dans les bras. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu nous prendre directement dans les bras. Mais il veut pas le faire.
Oui, il a fait.
Attendez. D'accord. C'est rien à voir, c'est une autre histoire avec Ephraim. Mais pourquoi Rashi nous ramène ce verset-là? Parce que Rashi nous dit que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer ici. Tirgalti, Hergel, Ragil. Ragil en hébreu. Ragil en hébreu. L'habitude. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de nous habituer. Parce que Rashi a une question, il dit, mais d'accord, j'ai compris ce cirque. Mais pourquoi Dieu se fait ce cirque? Devant, derrière, après dans les bras. Pourquoi il fait ça? Alors tu as raison que dans l'exemple que je t'ai donné, c'est vrai que le père, il a fait au coup par coup. D'accord? Le père, il a fait au coup par coup. Ça veut dire, bon, au début, il a protégé devant, après derrière, après il a pris dans les bras, il a fait au coup par coup. Et c'est vrai que si le père était intelligent, il aurait dû prendre son fils directement dans les bras. Akadosh Baruch Hu, il savait très bien ce qui allait se passer. Pourquoi il ne nous a pas pris directement dans les bras? Bah, on a la réponse. Comme on a expliqué hier dans Poter, quand on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand on est par terre, tout d'abord, Zokev Kefufim, d'accord? Non, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit?
Sommer
Hashem Ochalanofim, Zokev Ochalakefufim. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand on est par terre, il ne nous relève pas d'un coup. D'abord, il nous redresse. Et après, il nous relève. Ça veut dire que c'est progressif. Tirgalti. Kachem alzrota, avec Akadosh Baruch Hu, est en fait en train de nous prendre dans ses bras. Et que ça prend du temps. D'accord? C'est exactement le message de Rashi. Avec ça, on comprend. Avec ça, Rashi nous explique, on a bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment en vérité, c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, s'il voulait, dès le départ, il aurait pu nous prendre dans ses bras. Il dit bon, c'est moi qui gère. Allez, j'avance, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Il n'a besoin ni GPS, ni rien du tout, je m'occupe de tout. Il aurait pu faire ça, Akadosh Baruch Hu. Mais il veut pas le faire. Pourquoi il veut pas le faire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous habituer. Progressivement. Il dit bon, d'abord, je te laisse marcher tout seul, vas-y. Il dit avance, c'est bon. Après, il dit bon, ça y est, t'es perdu? Bon, je me mets devant. Ah, t'es perdu encore, pas derrière? Bon, je me mets derrière. Il veut nous montrer que de tous les côtés, partout où on va, on est bloqué. Et une fois qu'on réalise ça, elle dit, bon, maintenant t'as compris. Maintenant je te prends dans mes bras. Et ça me rappelle je vais finir avec ce point-là. Ça me rappelle ce qu'on a expliqué au cours de Tania de lundi soir, que c'est quoi la notion de rachamim, de la miséricorde? C'est avoir, à quel moment Akadosh Baruch Hu nous aide? Et Akadosh Baruch Hu va nous venir en aide, mais avec rachamim. C'est quoi la différence entre chesed et rachamim? Chesed, c'est la bonté. C'est quand Akadosh Baruch Hu nous donne, peu importe l'état d'esprit dans lequel on se trouve. On a expliqué, en deux mots, que c'est quoi rachamim? C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est lorsque la personne prend conscience qu'il est au pied du mur, et qu'il n'y a pas de solution. Et qu'il va se mettre à implorer Akadosh Baruch Hu en lui disant, je sais que je ne suis pas méritant, mais je n'ai pas le choix. Viens me sauver. C'est exactement le sentiment que les Bnei Israël ont eu à ce moment-là lorsqu'ils étaient devant la mer. Devant ils sont bloqués, derrière ils sont bloqués, partout ils sont bloqués, donc en d'autres termes ils sont au pied du mur. Là on peut dire au pied de la mer, d'accord? Ils sont au pied de la mer, ils savent pas quoi faire. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu leur dit, bon, maintenant vous avez compris que d'abord je vous ai demandé d'aller tout seul, vous êtes planté. Après je me suis mis devant, après vous étiez bloqué par derrière, donc je me suis mis derrière, mais devant vous me dites, c'est bon, on n'a plus besoin de toi Akadosh Baruch Hu, derrière. On connaît la route. Vous avez vu que devant, derrière, vous êtes bloqué. Maintenant je vous prends dans les bras. Et c'est après, à partir de ce moment-là, qu'on nous raconte, on nous dit qu'à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a fait avancer les Bnei Israël jusqu'au Mont Sinaï, jusqu'à Eret Israël. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, c'est pas seulement que Kadosh Baruch Hu leur montrait la direction, il les a carrément portés, comme dira après, comme dira après Moshe Rabbeinu, il dit Dieu vous a porté dans le désert, Kayasher Aïssa Aomen et Hayonek, comme une mère va porter son bébé dans ses bras. Moshe Rabbeinu le dira à la fin des 40 ans, lorsqu'il va taper son ébéniste, lorsqu'il va leur dire comment vous avez pu faire d'Averot, il dit mais Dieu vous a porté comme une mère, d'accord? Enfin, comme une mère va porter à Tayonek son nourrisson. Il est en train de vous donner à manger constamment, et vous, vous faites ce que vous voulez. Ça veut dire que, il est dans les bras de sa mère, en train de manger, et il est en train de dire où est ma mère. Comme ça, Rachid dit là-bas. Rachid donne l'exemple là-bas, il dit, c'est comme un fils qui dit à son père, j'arrive pas à marcher. Son père, il le prend sur ses épaules. Et comme ça, le fils, il est là, il regarde la nature et tout autour de lui. Et à un certain moment, le fils, il s'adresse à quelqu'un. D'accord? Il dit, excusez-moi, vous avez pas vu mon père?
Ah bon?
Il dit, oh, c'est quoi ça? C'est la même chose. Ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, c'est soit Kadosh Baruch Hu était devant, soit derrière, soit les deux en même temps. Mais jamais il nous a portés. À partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va nous porter. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va beaucoup nous en vouloir par la suite, lorsque bien qu'il nous a portés et bien qu'on mange, il est en train de manger, il est en train de téter de sa mère, après il dit « Mais où est ma mère? Je fais ce que je veux? Non, je mangeais tout seul. » Pas problème. D'accord? Avec ça, on comprend ce que Rachid voulait dire.
Ils ont des manifestations.
Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu
quotidienne.
C'est le grand vitre. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de nous habituer progressivement.
Ils ont des manifestations de Dieu quotidiennes et ils les voient pas.
Dieu les porte.
L'enfant qui est en haut qui voit pas son père qui le porte. Alors que nous, on en voudrait qu'une seule.
Sidney, on en a bien là tous les jours.
On en a. Mais on les voit pas.
Voilà, ça doit être ça.
Comme
vous avez compris les étapes.
Bah mais là,
Dieu nous a habitués.
Pourquoi la nuit on la qualifie pas de malin?
Bonne question. Parce que la nuée, ici, c'est une bonne question, je dis pas. La nuée et le malach ont un rôle complètement différent. Le rôle du malach, d'accord, normalement, on a ici deux choses. On a un qui est censé nous servir de GPS, et un qui est censé nous servir de nous protéger des ennemis. Pourquoi on nous dit ici qu'à un certain moment, les deux sont venus par derrière? Parce qu'on a dit on n'a plus besoin de personne. On n'a plus besoin de GPS. Donc je dis bon, j'ai plus besoin de GPS, je l'envoie par derrière. Mais après on a compris qu'on était devant la mer, donc on a besoin des deux.
Pourquoi la nuit on a qualifié pas de
malade? Parce que c'est pas...